La couche d'ozone est trouée, elle est abîmée, alors moi je dis, il faudrait remettre une couche d'ozone. Et là, je m'y colle. En ce qui concerne la montée du niveau des océans, c'est une triste réalité, en effet. Mais je propose que l'on remonte le niveau du sable. Ainsi, il n'y aura pas de problème. On fera des plongeoires, des pontons. Hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On va en trouver. Vous savez, quand nous aurons fini d'essorer tous les oiseaux mazoutés, on pourra voir venir, ne vous inquiétez pas. Pas près de s'éteindre, sans compter que c'est quand même une énergie renouvelable. Le pétrole, bien sûr. Il faut quelques millions d'années pour en refaire. Mais j'ai envie de dire aux Français, soyez patients.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec aujourd'hui Maxime Ingrand, Élise Christophe à la technique, je n'oublie pas Charles Barjou, et assisté de Camille Blanès et Hélène Bisio qui réalise cette semaine cette émission. Alors pour qui voter, se disent la salamandre et le triton à Notre-Dame-des-Landes. Pour qui voter, dit le loup, pour celui qui me tira le moins dessus. Pour qui voter, se dit le taureau un peu blême, car aucun est contre la fête du sang dans l'arène. Pour qui voter, pensent les rivières et les océans, pour celui qui nous polluera le moins. Pour qui voter, disent les abeilles, pas pour celui qui construit des ruches sur le toit de sa mairie pour faire joli, tout en légiférant en faveur des pesticides. Pour qui voter, s'interroge l'éléphant, l'ours blanc, le rhinocéros, le tigre, le ver de terre, l'orang-outan n'emporte le vent des urnes. Pour qui voter, dit l'uranium, pour celui qui continuera à m'utiliser plein pot et m'enfouir bien profond. Pour qui voter, se dit le bio, ce sera peut-être les mêmes que pour moi, lui répond le pesticide. Alors c'est quoi voter, dit la planète avec ses 7 milliards et demi de petites épingles qui grouillent sur son dos. De toute façon, la nature ne vote pas. Les animaux commencent à avoir quelques timides droits dans ce monde de fous. La nature ne sert qu'à une seule chose. Ah oui, avec ses arbres, à fabriquer des bulletins de vote. Et puis c'est tout.
CO2 mon amour sur France Inter.
Alors, la transition écologique est en fait la perdante de ce premier tour. Elle était structurante dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et aussi de Benoît Hamon. Deuxième tour, candidate de la patrie et le candidat du travail, avec deux visions de l'Europe et de l'économie totalement différentes. Mais sont-ils des candidats de l'environnement? Alors, ne rêvons pas, mais les propos environnementaux sont pour le moins évidemment discrets dans la bouche des candidats, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Il y a une prise en compte réelle de l'environnement, donc progrès important par rapport à l'élection présidentielle précédente, mais on sent bien, si vous voulez, que le vert est là encore pour justifier, nourrir, servir, illustrer le dogme de chacun, donc l'économie libérale et sociale pour l'un, la préférence nationale pour l'autre. Alors, à mes côtés, pour cet enregistrement qui a eu lieu jeudi, Frédéric Danhé, chroniqueur ingénieur en environnement, que vous connaissez, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, et Philippe Murer, économiste, président du collectif Écologie au Front National, conseiller économie et environnement auprès de Marine Le Pen. Je vais commencer par vous. Quelle est la doctrine en fait environnementale globale du FN, Philippe Murer?
La première chose qui nous différencie un peu de nos adversaires, c'est que pour nous, la sauvegarde de l'environnement ne peut se faire à grande échelle, je le dis bien, dans la mondialisation sauvage, puisque cette mondialisation sauvage entraîne un dumping environnemental et aussi entraîne des transports sur toute la planète. Et pour nous, il y a les deux problèmes du réchauffement climatique, de l'agriculture chimique et de ses conséquences néfastes, tant sur notre santé que sur les sols, qui sont les problèmes urgents à traiter. Alors, nous voulons que la défense de l'environnement se conjugue avec l'économie. C'est à ces conditions que les citoyens y adhèrent, que l'on crée de l'emploi au lieu de ruiner notre économie. Donc c'est ce qu'on appelle une écologie constructive, une écologie aussi patriote, puisqu'on veut que ça crée de l'activité sur notre sol, des emplois sur notre sol, ce qui entraîne forcément l'adhésion des citoyens, plutôt qu'une écologie punitive qui a pu défendre Europe Écologie Les Verts pendant des années en interdisant et en censurant.
Corinne Lepage, alors là aussi, donc, on veut dire quelle est la philosophie globale de l'environnement chez Emmanuel Macron?
D'abord, il y a un chapitre environnement, mais la question est transverse et j'y ai personnellement veillé. La question environnementale, c'est pas un chapitre environnement entre l'agriculture et le transport. Ça, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Deuxièmement, les problèmes, ils sont planétaires. Le réchauffement climatique, il est planétaire. La pollution de l'air, elle s'arrête pas aux frontières. La pollution chimique et la santé environnementale, qui est un point fort du programme, c'est lié aux produits que nous utilisons. Ils sont utilisés dans le monde entier. Et la question de la biodiversité, elle est sur le monde entier. Par voie de conséquence, et là je suis effectivement en opposition complète avec, pas Philippe Murray à titre personnel, mais avec le Front National, imaginez une écologie patriotique est pour nous un non-sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas développer l'économie française. Ça veut dire que les problèmes environnementaux se règlent d'abord à une échelle européenne, puis, si possible, et on l'a vu avec les accords de Paris,
à une échelle planétaire. Il ne s'arrête pas à la frontière comme le nuage de
Tchernobyl. C'est exactement ça. Et donc, les points forts, c'est la transition énergétique. 15 milliards, c'est le plus gros programme d'investissement d'Emmanuel Macron. La santé environnementale et la question de la biodiversité.
Alors, je vous propose pas de commencer justement par l'énergie. On va commencer donc par le nucléaire. D'un côté, on va dire, on a Emmanuel Macron, donc, qui est partisan, donc, du nucléaire et qui met cela au cœur de sa stratégie industrielle. On va en savoir un petit peu plus. Et puis, donc, aussi, que se passe-t-il du côté du nucléaire avec, avec le Front National, Philippe Murray?
Bah, là-dessus, on est d'accord puisque la transition énergétique pour nous, c'est de se passer des énergies fossiles et donc pas du nucléaire en même temps parce que ça nous paraît extrêmement difficile de faire deux actions très forte de se passer à la fois du nucléaire et des énergies fossiles en même temps. Donc voilà l'urgence.
Alors ce que je voulais dire... ferme Fessenheim ou on ferme pas Fessenheim?
Non, on ferme pas Fessenheim.
Vous non?
Non.
Chez Emmanuel Macron?
Oui, bien sûr. Je vais revenir sur le nucléaire. Oui, mais
si je peux me permettre...
Emmanuel Macron veut fermer Fessenheim dès lors que Flamanville sera ouvert.
Oui, cette condition a disparu des dernières propositions qu'il a faites.
Alors il y a une chose très importante, c'est que nous, le nucléaire, qui est pour nous la première transition énergétique qui a permis la France de se passer d'une partie importante des énergies fossiles, alors qu'elle ne consommait que des énergies fossiles, en fait on veut l'utiliser cette énergie décarbonée pour produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Parce que les centrales nucléaires françaises sont souvent sous-exploitées, notamment la nuit, et on peut produire de l'hydrogène à très bas coût, et cet hydrogène servira à être utilisé dans l'industrie, dans les voitures à piles à combustible, etc. C'est une vision à moyen terme.
Comment vous produisez l'hydrogène? Il faut 800 degrés pour produire de l'hydrogène dans une centrale nucléaire. Expliquez-moi.
Ah non, c'est pas comme ça. C'est par électrolyse de l'eau. Et d'ailleurs, il y a un bouquin des patrons d'Air Liquide qui est sorti en 2015 qui explique qu'effectivement, le prix est relativement peu différent du prix de l'hydrogène qu'on obtient autrement, hein, puisque l'hydrogène est très utilisé dans la pétrochimie, mais fait à partir de gaz. Et on peut produire cet hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Et si on met les moyens, le produire à des coûts vraiment comparable à ceux de l'essence. Ça sera le vecteur de stockage de demain.
Il y a une manière à faire l'électrolyse encore moins chère, c'est de le faire au pied des éoliennes, mais vous ne voulez pas d'éoliennes. Pourquoi?
Alors, il y a un moratoire sur les éoliennes qui est demandé par notre programme.
Y compris offshore.
Tout à fait, un moratoire.
En quoi ça gêne une éolienne offshore?
Alors, un moratoire, ça peut gêner les gens en termes... Il y a le problème touristique, mais surtout le vrai problème, c'est déjà, il y a un problème de santé publique qui n'est pas résolu, puisqu'il y a des médecins allemands, des médecins canadiens, et même le Sénat australien qui s'est posé le problème de à quelle distance. Donc ça, c'est pour les éoliennes terrestres des habitations. Donc ça, il faut une étude publique indiscutable sur ce sujet. Puis un autre sujet, c'est qu'en fait, les gens des campagnes trouvent que le paysage s'abîme, est profondément abîmé par les éoliennes.
Marine Le Pen dit carrément c'est immonde, et en plus ça ne marche pas.
Ça marche pas.
C'est immonde, elle aime pas. C'est
elle aime pas, et c'est vrai que les gens des campagnes sont remontés contre les éoliennes. Il y a des gens très très braqués là-dessus, une partie importante, parce que en plus ils voient même pas l'intérêt. Ça dégrade leur paysage et en plus ça ne crée aucun emploi puisque c'est des éoliennes qu'on achète en Allemagne ou en Chine. Et c'est là aussi le problème.
Alors Corinne Lepage, donc revenons effectivement sur le nucléaire. Il s'agit aussi, c'est un peu le programme, on va dire la suite de Hollande, c'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver à une électricité d'origine nucléaire de 50% d'ici 2025.
Oui, c'est un changement énorme, hein, parce que ce qu'on dit pas quand on dit 50% de nucléaire en 2025, ça veut dire fermer 15 réacteurs nucléaires.
C'est ça.
Bon, ça c'est le sous-titre. Hein. Pour y arriver, il faut développer massivement le renouvelable et développer massivement l'efficacité et la sobriété énergétique. C'est pour ça que ces 15 milliards dont je parlais tout à l'heure sur la rénovation des bâtiments, c'est des mesures très concrètes. Par exemple, permettre aux gens qui vont investir pour faire de l'isolation de bénéficier de l'argent en amont et non pas en aval avec remboursement d'impôt, le crédit d'impôt. C'est pour tous ceux qui ont une passoire énergétique et qui sont des précaires énergétiques, ça c'est un sujet absolument majeur, c'est 7 millions de personnes, un audit gratuit. De manière à ce qu'ensuite les aides puissent aller directement à ce qui va être le plus efficace et le plus utile. Donc c'est du pouvoir d'achat derrière. Ensuite, il y a le renouvelable. Et sur le renouvelable, évidemment, développer l'éolien, le solaire. Et je répondrai à Philippe Murray, c'est qu'il y a une manière très simple dans laquelle les gens des campagnes sont entièrement d'accord avec l'éolien. C'est quand ils le font eux-mêmes. Et donc, notre programme, c'est d'aider au développement de l'énergie citoyenne.
L'autoconsommation.
De l'autoconsommation et des sociétés coopératives d'habitants. Exemple, les toits de Figeac. Les toits de Figeac, c'est quoi? C'est des agriculteurs qui se sont réunis d'abord pour mettre en commun les moyens pour l'agriculture et puis qui sont passés ensuite à l'énergie et qui sont devenus autonomes énergétiquement.
C'est vrai que le solaire passe beaucoup mieux malgré tout que l'éolien.
C'est pas de l'éolien, c'est du solaire, ouais. J'entends bien. Mais ça montre bien que quand les gens sont les maîtres de leurs installations, ça marche. Et nous voulons développer massivement ce point. Sur le nucléaire, on a dit à Emmanuel Macron qu'il n'était pas clair. Il est très clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 50%. Et il a dit les grandes décisions sur après, elles se prendront en fonction de trois critères. L'audit de l'ASN en 2018 sur les 58 réacteurs.
Et d'ailleurs, vous souhaitez un renforcement de l'indépendance,
oui,
de l'ASN,
c'est-à-dire
l'autorité
programme.
De sûreté nucléaire.
C'est dans notre programme un renforcement de l'indépendance et des moyens de l'autorité de sûreté nucléaire. À de nombreuses reprises, le président de l'ASN, M. Chevet, s'est plaint du manque de moyens pour faire son travail qui est majeur. La sûreté est un problème majeur et donc il faut qu'il ait tous les moyens pour travailler. Donc, audit de l'ASN, premier point. Coût réel du nucléaire, dit Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît un peu en finance et donc il dit il faut qu'on sache combien ça coûte. Pour le moment, on ne le sait pas réellement. Et troisièmement, comparaison avec les autres énergies. Je rappelle, à titre d'exemple, que le dernier appel d'offres qui a été lancé en France sur le photovoltaïque, c'est la moitié du prix du nucléaire
oui,
sorti Flamanville. Donc, ça ne devient pas rentable. Et le nucléaire s'arrêtera pour des questions financières.
Qu'est-ce que l'on fait, Philippe Murer, donc, au Front National de EDF?
D'EDF, on le garde public et on veut surtout qu'il reprenne une vraie mission de service public. Parce que là, avec l'Union européenne...
Mais 100%. C'est impressionnant.
Oui, oui. Alors, après avoir, si on nationalise les 10 derniers %, mais l'idée, c'est de retrouver une mission de service public, et c'est là où l'Union européenne pose un problème, puisqu'elle met en concurrence EDF, elle l'oblige à vendre son énergie en dessous de ses coûts de revient, largement en dessous, 30% en dessous de ses coûts de revient, à des entreprises privées un peu hors sol, et ça affaiblit EDF, qui est quand même un fer de lance de la mission de service public.
On se lance dans le thorium, donc nouvelle génération aussi pour le nucléaire chez vous.
C'est une histoire, les réacteurs au thorium, ça. Hein.
Alors, effectivement, et on se dit, on aura peut-être besoin dans 20 ou 30 ans, moi je pense qu'on peut se passer en 20 ans des énergies fossiles en France. 20, 25 ans, c'est tout à fait possible. Il faut de la volonté politique et mettre tous les moyens en place. Je dis juste une petite chose avant de parler du thorium. En fait, la transition énergétique en France, c'est ce que j'ai chiffré dans mon livre, c'est des investissements gigantesques de 1600 milliards d'euros qui sont totalement hors de portée du seul secteur privé. C'est pour ça qu'on aura besoin d'une Banque de France qui nous aide, qui nous finance à taux bas. On a besoin d'un État stratège hors de... Alors, sur le thorium...
Alors, juste un tout petit mot. Le thorium, qu'est-ce que c'est, Frédéric Danhé?
En fait, historiquement, il y a eu une bagarre entre les tenants de la filière thorium et les tenants de la filière uranium. Les tenants de la filière uranium l'ont emporté. Effectivement, à l'époque, il y a 40 à 50 ans, le thorium, on ne savait pas quoi en faire. A priori, il y a moins de déchets, des déchets moins radioactifs. Cela dit, c'est une arlésienne un peu. On y revient tout le temps.
Vous avez tout à fait raison.
C'est comme sur les surgénérateurs, etc.
Alors non, c'est pas du tout la même chose pour moi.
Alors, je sais que c'est pas la même chose.
Je vais vous dire pourquoi. Vous avez tout à fait raison. Ils l'ont emporté. Et pourquoi ils l'ont emporté? Parce que les militaires leur ont dit, oui, on veut des centrales à uranium pour avoir des déchets dangereux, dont le plutonium dont on va faire des bombes. Alors que le thorium, il y a une centrale au thorium qui a fonctionné, en fait, à l'uranium 233, qui est le suivant du thorium, qui a fonctionné aux États-Unis pendant un an sans aucun problème. Et c'est tout à fait possible. L'intérêt, je le dis pour les auditeurs, peut-être qu'on aura besoin de renouveler nos centrales nucléaires. Nous, c'est ce qu'on pense. On n'est pas du tout sûr qu'on pourra s'en passer. Et si on a besoin de les renouveler, on veut avoir une technologie qui soit beaucoup moins dangereuse. Parce que le thorium n'est pas fissile. Donc ça veut dire que la centrale nucléaire, s'il y a un Fukushima, en fait, la centrale nucléaire s'arrête automatiquement. Il n'y a pas de risque d'emballement de la centrale, etc. Même si on n'a plus d'électricité, la centrale s'arrête toute seule. C'est tout l'intérêt. Après, il faut faire les moyens pour essayer de le faire, puisque c'est un nucléaire non dangereux qui nous permettra de produire de l'hydrogène aussi.
Frédéric ?
Non, je voulais revenir sur deux points avec vous, Madame Lepage. Un premier point, Emmanuel Macron veut un marché européen unique de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et deuxièmement, sur les éoliennes, vous voulez développer les éoliennes en raccourcissant les procédures. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'avocats, d'associations qui font qu'aujourd'hui il faut 10 ans pour avoir une éolienne en France?
Je pense que sur le deuxième point, je ne dirais pas qu'il y ait trop d'avocats, mais moi je ne suis pas une fanat des procédures, hein, très franchement.
Comment on raccourcit les procédures?
Déjà, dans l'instruction du dossier. Vous savez, au départ, on ne voulait pas politiquement d'éolien en France parce qu'on ne voulait pas d'énergie renouvelable. Parce qu'il faut bien comprendre quand même quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un os fondamental dans
le
ce que
nucléaire propose. Un petit peu les choses, peut-être. Hein
Une difficulté fondamentale dans le programme de Mme Le Pen, c'est que vous ne pouvez pas faire en même temps du renouvelable et du nucléaire, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le marché, il est ce qu'il est, et que si vous montez la part du renouvelable, vous baissez automatiquement celle du nucléaire. Or, le nucléaire, vous ne voulez pas baisser sa part.
Ou alors, on baisse la part du fossile. C'est ça, notre idée.
Oui, mais il n'y a pas grand-chose. Dans l'électricité,
c'est le fossile. Non, mais du fossile pour les transports. Du fossile, du pétrole
et de l'essence.
C'est un autre
sujet. C'est pas l'électricité. Là, je parle de l'électricité. L'énergie n'est pas le même sujet que celui de l'électricité.
Oui, les fossiles, c'est 1% de la production d'électricité.
C'est que dalle. Voilà. Bon, donc, on a saboté en France le renouvelable depuis 10 ans ou 15 ans. Soyons très clairs. Je suis peut-être un peu brutale dans ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, on a mis des procédures à n'en plus finir pour faire de l'éolien. Maintenant, on a quand même simplifié les choses. Je pense qu'on peut encore les simplifier un peu. Sur les recours, on pourrait les juger beaucoup plus rapidement. Et puis, encore une fois, quand c'est les gens eux-mêmes, avec des entreprises locales qui font leurs installations, il n'y a pas de recours. Ça marche très bien.
Pour l'éolien offshore, ce n'est pas la même chose.
Non.
L'éolien offshore, il est là, il n'y a toujours pas une éolienne qui émerge, les industriels se disent que de toute façon le marché n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes contre, Monsieur Mureur, Madame Lepage ?
Oui, nous on est plutôt pour. Ce qui a été lancé il n'y a pas longtemps en mer du Nord, vous avez vu qu'il y a un appel d'offres d'éolien en mer, qui est tellement rentable qu'il n'y a même pas besoin de subventions publiques. Bon, donc nous on en est loin parce qu'on a pris un retard absolument colossal. Areva, qui devait les faire, a abandonné son secteur énergie renouvelable, qui était probablement le seul qu'il fallait développer, mais enfin ça c'est un autre sujet. Et puis Alstom, on sait ce qu'il en est d'Alstom. Par voie de conséquence, l'éolien offshore en France a pris beaucoup de retard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Personnellement, moi je crois beaucoup au photovoltaïque, au solaire thermique. C'est ce qui se développe le plus partout dans le monde. 80% de baisse des coûts en l'espace de 5 ans, et on va avoir la même baisse des coûts dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est évidemment ça qu'il faut faire.
Le marché européen de l'énergie,
c'est quoi ? C'est déjà ça. Vous avez déjà un marché de gros de l'énergie sur lequel on vend et on achète.
Parce qu'il existe déjà, pourquoi le proposer dans le programme ? C'est quoi la
différence ? Parce qu'il faut le développer et interconnecter les réseaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans le même temps, développer massivement tout ce qui est l'autoconsommation et la production locale, parce que c'est un moyen de développement des territoires absolument formidable. Dernier point très important, moi je suis pour l'autonomie française. La seule autonomie énergétique, c'est le renouvelable. Il n'y en a pas d'autre. Ailleurs, il faut aller acheter les produits de base dans d'autres pays avec l'eau, l'air et le vent et le soleil. C'est à nous et à personne d'autre.
Du thorium, il n'y en a pas en France.
Si, on a 90 ans de stock de thorium en France.
D'accord.
En fait.
Philippe Mureur, sur le marché européen de l'énergie, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Alors nous, chez vous, au Front National ? Pour nous, c'est une pure catastrophe. En plus, ça veut dire qu'on va redonner une nouvelle souveraineté à l'Union européenne. Donc, on va enlever la souveraineté du président français et du peuple qui a été élu par le peuple et de l'Assemblée nationale. Et en plus, ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne pas du tout. Ça fait qu'en fait, personne ne fait rien. Nous, notre vision, c'est que si on crée le million d'emplois dont je parle dans le bouquin, en passant...
Ça s'appelle la transition énergétique aux éditions Mille et une nuit.
Tout à fait. Voilà. Une énergie rentable, moins chère et un million d'emplois créés. J'explique qu'on peut créer un million d'emplois sur le sol français direct en produisant ces énergies renouvelables de façon massive. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune chance qu'on les produise sur le sol français. Pourquoi ? Parce qu'on a pris du retard, effectivement, parce qu'on a laissé les producteurs chinois détruire non seulement l'industrie française, mais l'industrie allemande du photovoltaïque qui était leader mondial. Et ça, c'est la volonté de la Commission européenne de faire un libre-échange total. Et donc, en fait, on veut faire la transition énergétique, mais sans créer des emplois, ou alors quelques emplois de service par-ci, par-là, mais pas de valeur ajoutée. On pense que c'est pas possible, que c'est la ruine du pays dans ce cas-là.
Sauf que la deuxième génération de photovoltaïque, elle est allemande. Et que les Allemands, ils ont perdu 4 ans, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de difficultés. Les entreprises se sont relancées. Et aujourd'hui, on a du photovoltaïque allemand. On a de l'éolien espagnol et suédois ou danois. On a de très belles entreprises françaises, européennes. Rien ne nous empêche d'avoir de très belles entreprises françaises dans ce secteur. EDF Énergie Nouvelle pourrait parfaitement en être le pilier.
Transition musicale, si vous le permettez, puis agriculture, OGM, santé, principes de précaution, mobilité, oui, encore des sujets. Like a river flowing free through infinity. Free to be sure of what I am and who I need. Libre, et oui, libre. CO de mon amour, donc spécial actualité programme présidentiel sur l'environnement, vous l'avez compris, sur France Inter. On passe maintenant donc à l'agriculture. Alors, agriculture industrielle, reste-t-on dans une agriculture dopée aux pesticides et vive les fermes-usines avec du bio à côté? Quel est le programme, Philippe Mureur, du Fonds National?
Alors, sur l'agriculture, on veut très clairement transformer l'agriculture française dans une agriculture respectueuse de l'environnement. Il ne faut pas se leurrer, il faudra 20 ans pour changer toutes ces pratiques, on ne peut pas le faire en 2 ans.
C'est quoi l'agriculture respectueuse de l'environnement?
C'est l'agriculture bio, c'est toutes les formes d'agroforesterie, d'agriculture de conservation, de permaculture, c'est toutes ces nouvelles formes qui ont été inventées en fait par les agriculteurs, qui ont été en fait portées au nu par les citoyens qui achètent notamment beaucoup de bio.
On supprime la PAC et on la remplace par une politique agricole française?
Exactement, qui nous permettra de réorienter les aides vers des exploitations à taille humaine et vers ces exploitations effectivement respectueuses de l'environnement.
La France aura le moyen de se substituer à l'Europe pour subventionner l'agriculture?
La PAC, de toute façon, c'est de l'argent, les 9 milliards qu'on reçoit de la PAC, c'est de l'argent qu'on a donné à l'Union européenne qui nous les renvoie, puisqu'on sait que ça se passe comme ça. C'est de l'argent des Français, en fait, qui passe juste par la Commission européenne. Mais en fait, il y a un problème majeur, pour moi. En fait, à cause de la concurrence internationale qui est féroce, parce qu'on a signé des accords de libre-échange avec toute la planète sur ces sujets, en fait, on a nos agriculteurs qui sont pratiquement ruinés. C'est un état catastrophique. On en a un tiers qui gagne moins de 350 euros par mois. Et là, de façon pragmatique, comment demander à ces gens-là qui ne pensent qu'à leur survie, qui n'ont pas les moyens de faire les conversions...
Et qui n'ont même pas 35 centimes de litre de lait pour arriver à subsister...
Oui, alors que notre litre de lait, d'ailleurs, en supermarché, il est toujours même prix, alors qu'ils payent de moins en moins cher. Et on voit bien qu'ils n'ont pas les moyens de transformer leurs exploitations, ils pensent qu'à leur survie. Donc on pense, nous, qu'il faut effectivement les protéger parce que moi, j'ai trouvé une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, Corinne Lepage, mais quand vous voyez les agriculteurs, vous discutez avec eux, en fait, il y a une grande majorité d'agriculteurs qui veulent changer de modèle. Mmh. Très clairement, ils ont compris que c'était pas l'avenir. L'avenir, c'était l'excellence.
Ça, ils ça ont bouge compris... dans les campagnes, c'est vrai.
Ah, ils ont compris que c'est dangereux pour leur santé, ils veulent changer de modèle. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut les protéger, leur offrir des prix grâce à un protectionnisme intelligent, que fait la Suisse, hein, d'ailleurs, sur l'agriculture, leur donner des prix raisonnables qui leur permettent de vivre. Et avec cela, on pourra développer. Et la dernière chose, c'est qu'évidemment, mais ça, c'est du long terme, il faut changer radicalement l'enseignement agricole pour intégrer le plus possible toutes ces nouvelles formes d'agriculture qui sont plus complexes. Il faut changer aussi les chambres d'agriculture pour qu'elles ne prônent pas que l'agriculture chimique, mais au contraire qu'elles prônent ces nouvelles formes.
Frédéric Danhé. Alors certes, mais dans la formation du prix, il n'y a pas que la concurrence internationale, il y a la dictature du prix imposée par les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Vous faites comment ?
Ça, c'est sûr qu'il faut absolument faire.
Est-ce qu'il faut fixer des prix planchers d'achat aux agriculteurs et des prix maximales, comme le voulait Jean-Luc Mélenchon, des prix maximales de vente ?
C'est vrai que les prix planchers, d'ailleurs, c'était la première politique agricole commune, ça a été abandonné, c'était une bonne chose, ces prix planchers. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'on a un oligopole, c'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 centrales d'achat, en fait, qui imposent leurs dictates non seulement aux agriculteurs, mais à tout le monde. Il faudra casser ces centrales d'achat.
Tout le monde le dit, tous les candidats le disent.
Oui, mais
qu'est-ce qu'on fait ?
Ah ben, on fera une loi où on demandera aux centrales d'achat de revenir à 6 ou 7. Donc, il faudra que les centrales d'achat se désunissent parce qu'il y a des alliances qui font qu'il n'y a plus de concurrence du tout dans les centrales d'achat. Elles imposent leurs dictates à tout le monde.
Sur ce même sujet, donc, sur l'agriculture, chez Mme Macron, Corinne Lepage.
J'écoute avec beaucoup d'intérêt Philippe Murer et je relisais le programme de Mme Le Pen dans lequel, en fait, l'essentiel, c'est le patriotisme économique et produire français. Mmh. Le mot bio, je ne l'ai pas vu dans le programme. Il y a les labels de qualité, mais je n'ai pas vu le bio.
Est-ce que justement, les circuits courts, les labels de qualité, l'agriculture territoriale,
C'est essentiel. Ce que nous proposons...
C'est pas l'autre mot de l'agriculture, tel que le défend M. Murer.
Non, l'agriculture bio, elle peut être locale, effectivement, et elle l'est, mais il y a de l'agriculture locale qui n'est pas bio du tout.
Absolument.
Donc à partir du moment, comme c'est notre cas, où nous faisons de la question de la santé environnementale un sujet absolument central. Mais la situation est aussi catastrophique pour moi que l'est le changement climatique. C'est-à-dire que c'est l'espèce humaine qui est mise en cause en termes de santé publique comme elle l'est par le changement climatique. Donc, ça veut dire de s'attaquer aux questions alimentaires, mais également à tous les produits chimiques, aux perturbateurs endocriniens, à tous ces sujets-là. Bon. Donc là, on est sur l'alimentation, mais ça fait partie d'un
tout. Bien sûr.
Ce que nous proposons, c'est 50% d'agriculture bio et locale dans toute la restauration collective, publique et privée. Ça veut dire quoi ? Pourquoi pas d'abord 50% de bio ? Parce qu'on ne peut pas. Si on dit 50% de bio, automatiquement, c'est de l'importation. Donc, on ne dit pas 50% de bio. Autour de 20-25% de bio serait déjà très bien. Le reste, c'est du local. Et en particulier, nous visons une catégorie. Vous en avez parlé indirectement, M. Murer, il y a un instant, c'est ceux qui veulent changer. Les gens qui sont en transition, ils ont 3 ans. 3 années épouvantables. Parce qu'ils font bio, ils ne peuvent pas vendre bio. Eh bien, d'avoir une restauration collective qui va leur acheter leurs produits va leur permettre de passer effectivement cette étape difficile. Et il faut aller vers cette agriculture d'excellence qui effectivement permet aux agriculteurs d'être payés dans des conditions normales. J'ajouterais 5 milliards mis par le programme d'investissement d'Emmanuel Macron
pour
aider à changer de niveau. Pour aider à passer à un niveau plus élevé.
Et 200 millions pour rémunérer les services rendus.
Alors c'est peu, mais c'est l'idée qui est intéressante.
Des agriculteurs à la
nature. On considère qu'il y a des services qui sont rendus par les agriculteurs.
Par exemple, entretenir les haies, des zones humides,
etc. Des choses comme ça. C'est pas payé. C'est un service formidable rendu à la collectivité et c'est le début du paiement de ce qu'on appelle, vous le savez comme moi, les externalités.
Voilà.
Et il faut évidemment aller dans cette direction.
Et séparer aussi les activités de conseil de la vente des pesticides.
Ça, c'est très important.
Oui.
Nous voulons réduire massivement les pesticides. Une des manières de le faire, c'est qu'il n'y ait pas d'intérêt pour ceux qui conseillent les agriculteurs à vendre les pesticides. Donc c'est interdit, séparation complète entre l'un et l'autre.
Non, mais vous avez raison, ça, il n'y a pas de sujet. Alors, je peux te dire un petit mot sur l'agriculture bio.
Moi, vous avez raison, mais il n'y a que Emmanuel Macron qui l'a proposé.
Non, ils l'ont proposé, mais je suis tout à fait d'accord, c'est séparation pour éviter les problèmes de lobbying. Complètement juste. Moi, je voulais vous dire un petit mot. Il y a quelque chose d'un peu irréaliste qui croit qu'on va sauver l'agriculture française, d'ailleurs, en même temps par l'agriculture bio. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je vais vous dire pourquoi. Je consomme bio, personnellement. J'en ai les moyens, j'ai la chance, parce que j'en ai les moyens. C'est aussi le problème des classes populaires et moyennes qui ne peuvent pas forcément acheter bio, c'est trop cher. Mais ce que je vois, c'est que dans les magasins français d'agriculture de bio, il y a de plus en plus de bio qui vient de Lituanie, d'Amérique du Sud, etc. Et donc, parce qu'il y a encore plus de parts de main-d'œuvre dans l'agriculture bio. Donc je pense que si on ne protège pas l'agriculture bio, les agriculteurs qui sont passés au bio n'auront plus d'argent. Et je voulais dire une chose. Moi, je pense que les socialistes, ça donne le paradoxe. Les socialistes veulent effectivement de l'agriculture bio. J'ai aucun doute là-dessus, ils sont sincères. Mais comme il y a l'austérité de l'Union européenne, ils n'ont même pas pu verser les aides à la conversion du bio il y a un mois. N'étaient pas encore versées de 2015. Ce qui met les agriculteurs bio dans une situation catastrophique. Ils ont fait les efforts,
comme
vous le
disiez. C'est pas la faute des socialistes. C'est parce que l'administration,
c'est l'austérité.
Elle a une chose à faire.
Non, c'est l'austérité.
À
cause de l'austérité, on ne met pas d'argent, on grignote de l'argent partout et en fait, on n'arrive plus rien à faire comme projet commun positif.
Juste un mot très rapide sur les OGM, Corinne Lepage.
Nous, c'est le statu quo, on interdit la mise en culture des OGM. Par contre, la recherche...
Vous n'interdisez pas la recherche.
Alors, vous savez mon combat contre les OGM, de 25 ans.
Il est très net, oui.
Moi, je pense que la technologie OGM en elle-même, elle n'est pas à prohiber. On ne peut pas être contre une technologie, on est contre ses applications. Donc, de dire qu'on développe pour avoir d'autres types d'OGM... je ne suis pas du tout opposé.
OGM, Philippe Muret.
On est complètement opposé aux OGM. On est d'accord aussi avec la recherche, avec cependant un bémol. Moi, je vous le dis pragmatiquement. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher de produire un OGM. Et donc, il y a une perte de biodiversité parce que vous n'aurez pas 100 sortes d'OGM différents contre 100 sortes de maïs, même s'ils étaient très bien, contre 100 sortes de maïs naturel. Et ça pèse un problème de biodiversité à cause du coût de développement.
Un mot rapide sur l'accaparement des sols, Philippe Muret.
L'accaparement des sols, vous voulez dire l'artificialisation des sols.
Oui.
Alors ça, c'est un vrai sujet.
Et aussi l'achat des sols, peut-être quand même, quand
des sociétés financières.
Comme les...
Ah oui, alors ça, il faut revoir les règles, effectivement, parce qu'elles ont été un peu détournées de plus en plus.
Celles de la SAFER,
oui. Revoir les règles des SAFER, etc., parce qu'elles ont été un peu détournées, effectivement, et ça doit être les paysans qui continuent à acheter les terres, parce que, alors en France, il y a d'ailleurs des Chinois qui ont acheté des centaines de kilomètres carrés de terre, mais à l'étranger, c'est encore pire, en Ukraine, etc.
On rappelle juste un mot, Frédéric, la SAFER, donc.
Les SAFER sont censées gérer les ventes de fermes, les ventes d'exploitation agricole. Et globalement, jusqu'il y a peu de temps, jusqu'à un amendement déposé au Sénat, les SAFER n'étaient pas susceptibles de voir, par exemple, les changements de part sociale dans les sociétés agricoles par action.
Sur les
0%
sols, Corinne Lepage.
D'artificialisation dans notre programme. On arrête l'artificialisation des sols. Eh bien, on a des règles d'urbanisme qui interdisent de déclasser une zone naturelle, c'est tout.
Ah mais oui, mais les terrains agricoles, etc., parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors le problème, c'est que il va à l'encontre de la liberté. Nous, on pense que c'est un peu tôt pour le mettre dans le domaine politique, parce qu'effectivement, il y a un département qui est perdu tous les 10 ans, je crois, qui est artificialisé et bétonné. C'est un vrai sujet. Mais le problème, c'est que ça entraîne une vraie perte de liberté. C'est-à-dire qu'il faut dire, bah non, on construit plus. Et donc, ou quand on construit, on détruit. Donc là, ça, c'est complexe.
Vous savez, il y a beaucoup de terrains, enfin, vous le savez comme moi, à récupérer toutes ces abominables entrées de ville qu'on a fait.
C'est vrai.
Avec des centres commerciaux qu'on abandonne progressivement puisqu'on revient à des petites structures, moyennes structures de centre-ville, etc. Il y a des quantités de terrains à récupérer. Donc, commençons déjà par récupérer tout ce qu'on peut récupérer. J'attire l'attention sur le fait que l'agriculture au XXIe siècle, c'est notre alimentation. C'est une partie de notre énergie. C'est une manière de lutter contre le changement climatique. Et c'est la base de la chimie verte, c'est-à-dire de la chimie de demain.
Tout à fait juste. Des éco-matériaux, ça sera fondamental.
Mais tout ça, pour tout ça, il faut aider les agriculteurs. Il faut les aider à être bien rémunérés. Alors, il y a d'autres façons de les aider. Vous, Philippe Muret, il faut en finir avec certaines normes, alors que chez Emmanuel Macron, il faut instaurer un droit à l'erreur généralisé. C'est quoi ?
En finir avec certaines normes.
Le surcroît, le surplus de normes, avec les normes qui se surajoutent.
Non, c'est pas ça. Alors, nous, on pense, et Marine pense aussi, de la même manière que les réglementations protègent les Français, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on le sait très bien, il y a un surcroît de normes dans l'agriculture, comme par le CSA d'ailleurs, parfois, dont vous plaignez tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que les normes soient. Il faut que les gens qui pondent les normes soient responsables et fassent en concertation pour qu'elles soient claires, qu'elles soient lisibles, qu'elles ne changent pas non plus tous les 2 ou 3 ans, et donc qu'il y ait une simplicité qui soit faite, pour qu'elles soient facilement applicables. Mais on est totalement pour les normes.
Et le droit à l'erreur.
Juste un mot sur les normes. Moi, je ne suis pas pour les normes tous azimuts. Enfin, je prends un exemple, les nitrates, au hasard.
Oui, c'est
une norme pas respectée. Résultat, 25 ou 30 ans plus tard, les algues vertes, en 2017, il n'y en a jamais eu autant. Sur le droit à l'erreur, ce que dit Emmanuel Macron... Le juriste que je suis, je considère que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est de dire la première fois, quand vous n'appliquez pas quelque chose, vous pouvez n'avoir pas compris. Parce que c'est souvent très compliqué. Et souvent fait de manière volontaire, très compliqué. Donc, l'administration, elle est d'abord là pour dire, voilà comment vous devez faire. Si vous ne le faites pas, alors là, c'est cogné. Mais la première fois, on vous explique Donc vous avez un droit à l'erreur.
C'est une révolution, ça, dans l'administration française.
Ben oui, mais je pense qu'il y a quelques révolutions à faire qui seraient bienvenues.
Alors, un autre sujet, celui des transports et de la mobilité. Je vais faire assez simple sur les transports. Canal fluvial, Seine-Nord, oui pour les deux. Macron est pour le tunnel Lyon-Turin dans la suite de François Hollande. Le Front National souhaite renationaliser les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc. Bon, c'est pas exactement comment ce sera fait. Ce qui nous intéresse aussi maintenant, donc, c'est vraiment la mobilité, on va dire, du quotidien. En ce qui concerne Marine Le Pen, supprimer les régions, donc il restera l'État, les départements, les communes, qui fera circuler alors les TER.
Ah, ça sera beaucoup moins cher. C'est l'État qui reprendra effectivement l'aménagement du territoire avec la SNCF. D'ailleurs, on voit que la SNCF est en train de se transformer en service privé. Et quand vous voulez prendre un TGV, qui est quand même un transport très propre, on vous fait payer 250 euros l'aller-retour, ce qui devient hors de. Donc c'est plus un vrai service public. On veut que ça le redevienne. En plus, c'est mauvais. Mais alors, le point fondamental sur les transports, le Japon a pris la stratégie du tout hydrogène en 2015. Moi, c'est ce que je préconisais dans mon bouquin en 2014. Bien entendu, c'est complètement séparé. Je n'ai pas conseillé le Japon. Mais en fait, on pense que c'est la voie de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça sera impossible de cadencer et de synchroniser des énergies renouvelables qui sont intermittentes par une consommation intermittente. Il nous faut l'essence de demain, qui sera l'hydrogène, qui sera produit à partir des énergies renouvelables ou du nucléaire. Les piles à combustible existent. Et là, c'est un immense message d'espoir pour la pollution et aussi pour la transition énergétique. Parce qu'en fait, il y a 4 voitures à piles à combustible, des Toyota, Honda, etc. et une Kangoo qui est vendue 33 000 euros. En fait, ce qu'on sait, c'est que si on la vend à 300 000, 500 000 exemplaires, à ce moment-là, on a une production grande série qui fait qu'elle est au même prix que les voitures à essence. Donc, il n'y a aucune raison pour cela de s'en passer. Mais il faut pour cela un État stratège, une date de rendez-vous, un État fort qui mette de la recherche et qui impose dans les grandes villes les voitures à hydrogène dans 5 ou 6 ans.
Corinne Lepage sur la mobilité. Là, on voyait aussi que chez Emmanuel Macron, ce qui concerne les trains, c'est ouverture à la concurrence assez rapidement. Pas d'ouverture à la concurrence chez Marine Le Pen. Et aussi renationalisation des autoroutes pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que l'on peut dire en mobilité ?
Moi, je trouve une renationalisation serait vachement bien, mais on n'a pas le fric pour le faire. Alors, voilà, moi je me bats contre les autoroutes. Comme ça a été fait, c'est un scandale absolu. Mais on n'a pas l'argent pour le récupérer. Sur l'hydrogène, c'est une solution, mais il y en a d'autres. Regardez le power to gas, qui est largement développé. Ah, peut-être expliquer ce que ça veut dire. Power to gas, c'est la récupération de l'intermittence du renouvelable pour faire d'abord de l'électrolyse de l'eau, donc de l'hydrogène, et ensuite le mélanger avec du carbone, de manière à retrouver du méthane. Et avec ce méthane renouvelable, artificielle, vous pouvez faire du combustible, c'est largement développé par la firme Audi en Allemagne, et vous pouvez faire des centrales à gaz avec cogénération, donc avoir l'électricité et le gaz. Le power to gas est une solution qui se développe beaucoup en Allemagne. Moi, j'avais vu quand j'étais député européen, tous les Allemands étaient à fond la caisse sur ce sujet-là. En attendant, il y a une chose que nous avons dans notre programme et à laquelle je tiens beaucoup, c'est aller vers la suppression du diesel. Et des véhicules thermiques en 2040.
Comment on y arrive ?
Eh bien, on y arrive sur le diesel par la fiscalité, par une aide. Nous proposons 1 000 euros à toute personne qui a un vieux diesel, de manière à ce que les gens modestes puissent changer de voiture, parce que la prime à la voiture neuve, c'est très 2001, sympa.
C'est une bonne idée, et je l'avais proposé il y a un an dans une conférence
c'est
de presse.
C'est très sympa, sauf que les gens, ils ne peuvent pas. Donc, si vous permettez, avec 1 000 euros, d'avoir un véhicule d'occasion, vous pourrez ajouter 500 euros, vous allez pouvoir vous passer de votre vieux diesel. En travaillant avec les constructeurs, pour qu'ils aillent vers d'autres types de gammes, c'est le cas aujourd'hui avec le développement de la voiture électrique. Je regrette le retard colossal que la France a pris avec l'hybride. Enfin, on commence à en voir un petit peu. Et aller vers une suppression complète du thermique, effectivement. C'est le cumul de tout ce type de mesures.
Alors, on ne peut pas développer non plus chez Macron, donc la route numérique est tout à fait intéressante. Je vous lance sur 3 mots. Alors, Notre-Dame-des-Landes, vous me faites très court, Philippe Murer.
Pour faire très court, c'est un projet. La piste actuelle de Notre-Dame-des-Landes aurait pu accueillir 4 fois plus d'avions.
Non, c'est le cas à Genève, ou Saint-Dié.
L'aéroport de Nantes. Donc, c'est à la fois un mauvais projet au niveau économique, pour tout un tas de raisons, parce qu'on pourrait avoir un aéroport sûr à Notre-Dame-des-Landes. On a quand même aéroport de Nantes actuel, comme un aéroport à Genève qui est sûr au milieu des montagnes, avec des instruments de navigation. Et c'est aussi une catastrophe économique, puis un problème de corruption en plus locale. Enfin, donc ça, c'est un vrai sujet. Par contre, comme il y a eu un référendum, une souveraineté populaire, il nous paraît très compliqué de dire on refuse la souveraineté populaire.
C'est ce que dit aussi Emmanuel Macron.
Là-dessus, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il dit très mauvais projet.
Vous êtes coincé, mais c'est
quoi référendum. Donc Emmanuel Macron, il dit écoutez, on se donne 6 mois, on va nommer un médiateur, on va reprendre le sujet de Loire-Atlantique, voir si quand même, on ne peut pas en faire quelque chose et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème d'ordre public sur place.
Autre mot, principe de précaution, Philippe Murer.
Principe de précaution, tout à fait d'accord. Il n'y a pas de sujet. Alors, il y a juste un sujet, c'est la justice. Les juges sont parfois un petit peu tatillons. On le sait très bien que les enseignants n'osent plus faire une sortie parce qu'ils ont peur d'être accusés de crime s'il y avait un accident. Donc il y a un problème, mais c'est plus un problème de justice qu'un problème d'écriture.
C'est un problème de mots. 9 fois sur 10, on appelle précaution ce qui est de la prévention. C'est pas la même chose. Quand vous emmenez pas des gosses parce qu'il y a un risque, c'est de la prévention, c'est pas de la précaution. La précaution, c'est un risque technologique dont les effets sont incertains. Et les risques pas connus. C'est pas la même chose.
Macron dit que le principe de précaution ne doit pas empêcher l'innovation. Est-ce que c'est pas en atténuer le sens?
Non, pas du tout. Vous avez les deux dans la charte de l'environnement. Vous avez les deux dans la charte de l'environnement.
De toute manière, on ne peut pas tout avoir. Effectivement, il y a une petite opposition entre les deux, mais il faut faire avec. C'est comme toujours dans l'humanité, il faut faire avec des notions différentes.
Alors, un autre mot, biodiversité. Là, on a une espèce de grand vide. On a regardé un peu les programmes. D'un côté, chez Marine Le Pen, la protection de la biodiversité, à condition qu'elle soit portée quand même par les chasseurs, qui sont les premiers garants de la biodiversité, puisque l'on peut dire.
Moi, je pense que les chasseurs sont des gens qui aiment. Alors, beaucoup, l'environnement. Parce que se promener...
Ah, mais ils aiment la nature.
Ça, c'est en plein hiver, par moins de 2 degrés, non, etc. Pour être chassé, il faut aimer l'environnement.
Alors, qu'est-ce que... Non, mais biodiversité, quand même.
Ça, c'est pas un problème. Parce que, de toute manière, on sait très bien que les espèces sauvages que chassent les chasseurs sont effectivement en surnombre, même. Hein, pour les sangliers, etc. Par contre, la biodiversité, on pense que la première grande étape...
Ce qui vole pas forcément, mais enfin bon. Voilà.
Alors, la première grande étape pour la biodiversité, c'est de plus avoir une agriculture chimique, parce que c'est elle qui détruit les sols, qui détruit les oiseaux, etc.
L'étalement urbain, surtout.
Et l'étalement urbain étant aussi un vrai sujet. Vous avez tout à fait raison.
Corinne Lepage, biodiversité, au-delà de la réouverture des chasses présidentielles, c'est un privilège entre chefs d'État.
Je ne commenterai pas.
On passe, d'accord, très bien.
Joker.
Ok, qu'est-ce que l'on peut dire?
Y a une idée, je pense, qui est intéressante, qui a été proposée par Emmanuel Macron sur l'outre-mer, qui est quand même un réservoir de biodiversité.
Oui, le premier.
Avec une responsabilité française dont on ne parle jamais. Nous sommes le seul pays industrialisé à avoir de la forêt équatoriale. Le seul. On n'est pas forcément un exemple.
Donc le symbole, ce serait de transférer l'AFB dans les DOM-TOM.
L'Agence française de la biodiversité.
Ça, et un deuxième sujet, c'est d'indemniser les collectivités territoriales en Outre-mer lorsqu'on leur interdit un projet de développement pour protéger la biodiversité. Et ça, je trouve que c'est intelligent.
Alors évidemment, on ne peut pas développer tous les sujets. On a quand même essayé d'en mettre quand même quelques-uns sur la table. Donc merci à vous deux donc, pour cet entretien, je le rappelle, qui a été enregistré donc, ce jeudi. Pour question d'agenda, enfin comme d'habitude, il faut réunir 3 personnes. Et puis, maintenant on va changer. On a un deuxième sujet, tranquillement. Là, je vais convoquer notre assiette. Et vous allez voir, on va se faire plaisir avec un cuisinier épatant, Anthony Cointre.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique. On a tout lu sur la diététique.
Olivier, ne te vante pas, vous avez lu quelques livres sur la diététique.
Normalement, j'ai tout lu sur la diététique, tout.
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Donc, autre forme de cuisine, celle qui suit les saisons et tente de ne pas consommer quand même trop d'énergie, avec cet homme que l'on va retrouver, oui. Hop, on a les ustensiles et surtout, on a le chef. Bonjour Anthony Cointre.
Bonjour Denis.
Alors, toujours cuisinier, emballant, ambulant.
Toujours.
Et alors, les courses, aujourd'hui, on suit les saisons, qu'est-ce que l'on a?
Carrément. Eh bien là, c'est un peu compliqué en ce moment, tu sais, Denis, parce que c'est l'entre-saison entre vraiment le printemps, on est au printemps, et puis tous les produits d'hiver, ils sont terminés, et ceux du printemps, d'été, sont pas encore là. Puis les beaux jours arrivent et tout, donc on a envie de choses un peu plus fraîches et tout ça, mais on n'a pas obligatoirement. Ouais. Par exemple, on trouve sur nos étals en ce moment des fraises, par exemple, il faut surtout pas les acheter, parce que c'est des fraises qui sont faites sous serre et tout ça, qui sont chauffées et qui sont hors sol. Ouais. Et le hors sol, c'est comment c'est fait, on goûte et tout, il manque un petit peu de sucre, on le met, enfin c'est avec des substrats et tout, c'est inintéressant.
Bon, donc là, on attend encore.
On attend un peu, alors on est réduit un peu au niveau des produits, mais c'est toujours intéressant parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on se trouve ? L'asperge, bien évidemment, alors là, ça c'est vraiment le début du printemps, l'asperge, et puis surtout celle-là, l'asperge d'Argenteuil, une des plus vieilles variétés, elles viennent de Napoléon, pas celles-là, elles sont fraîches, je les ai achetées aujourd'hui.
Je comprends, oui, de l'époque de Napoléon.
Non, c'est ça, mais de l'époque de Napoléon, et donc c'est une variété, en plus, Pour ceux qui sont sur Paris, ils peuvent faire du locavore puisque c'est dans le Val d'Oise. Oui. Et donc c'est une asperge de qualité extraordinaire avec un goût inégalé, surtout même les blanches qui en général, moi je trouve un petit peu moins de goût que les vertes. Oui. Là, on a quelque chose de vraiment de fin, de délicat. De subtil.
Bon, alors il y a ça. Alors, on les fait comment, là, très rapidement?
Oh bah, très simple. À l'eau, éplucher un petit peu, juste le pied, pas éplucher la tête. On ne pas trop cuire. On a tendance toujours à cuire trop, donc on perd quand même le jus. Ouais. Donc, essayez de garder quand même le jus. Donc, qu'elle soit toujours un petit peu croquante. Et puis, j'ai amené, moi, ce que je trouve...
C'est un péché, cette affaire. Là.
Carrément. Ça, c'est la crème épaisse de chez Monsieur Bordenbuc.
Alors, ça, c'est en Normandie, aussi, oui.
Voilà. Et le truc, moi, ce que je trouve facile de pour la cuisine, oui. C'est de prendre des bons produits. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand on est mauvais cuisinier, il faut prendre que des bons produits. Et c'est ce que je fais. Donc là, voilà. Donc ouais, là, voilà. Tu vois, regarde, t'as les asperges. Ouais. Pas trop cuites.
Impec.
Tu prends la crème, un petit peu de fleur de sel, un tour de poivre, et puis ça y est, ta recette est faite. Et les gens, ils vont se dire, mais j'ai jamais mangé ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors là, en même temps, tu vois, toujours, je sors donc le reste des asperges. Qui vient en même temps que les asperges, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ail des ours. Ça, c'est fait dans les petits ruisseaux. Donc, c'est de l'ail sauvage.
On peut trouver en montagne aussi.
Complètement, complètement. Monsieur. Alors là, c'est vraiment les asperges et l'ail des ours. Là, vraiment, on est dans le printemps, ça y est. C'est les premiers produits qui arrivent. Alors, c'est pareil, les asperges. Je parlais des fraises tout à l'heure. Mais les asperges, on les fait sous serre, pareil. Mmh. Et donc, on en trouve en février dans le sud. Mais c'est pas intéressant. Il faut toujours faire de la pleine terre, d'abord pour l'écologie, parce que si on chauffe avec quoi? Au mieux avec du bois, au pire avec du fioul.
C'est ça.
Donc, c'est pas bon du tout. Et puis, le produit ne vient pas comme il devrait venir.
Notre ail des ours, alors qu'est-ce qu'on va en faire?
Alors, l'ail des ours, il n'y a pas beaucoup de possibilités. On peut juste le faire comme des épinards, le poêler comme ça un petit coup au beurre. Et on le met comme ça, juste en accompagnement. C'est un peu puissant, c'est un côté aillé. Autrement, on en fait un pesto.
Ah oui.
C'est-à-dire juste broyé avec une bonne huile d'olive. Ou autrement, coupé comme ça en assaisonnement pour mettre avec on parlait de la crème. Tu mets un petit peu dessus comme ça. Il y a plusieurs utilisations, soit fraîche, soit juste poêlée ou soit en pesto.
Allez, alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et ben là aussi, un des produits phares, quand il y a des asperges et qu'il y a l'ail des ours...
Ça ressemble un peu à la fève, ça, non?
Complètement, ça en est totalement.
Bon.
Alors, la fève, c'est sûr, c'est un petit peu chiant à faire. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut des épluchines.
Ah oui,
des fois, il y a la cosse, qui est très agréable. J'adore passer mon doigt comme ça. Tu as vu comment c'est très doux?
C'est soyeux. C'est une peau de bébé.
Ah, carrément, mieux comme c'est doux.
Voilà. Du velours. Et quand on n'a pas le droit de manger les bébés,
on peut manger que la peau des fèves. Mais c'est vrai que bon, ça perd. Donc, tu vois, tu dois les éplucher. Et après, tu dois enlever la cosse qu'il y a autour de la graine de la fève. Et là, tu arrives au. Donc, un petit peu de travail d'épluchage.
Une tuerie, ça.
Exceptionnel. Oh. T'as vu ce côté vert, ce côté fin, il y a une délicatesse.
Même cru, hein.
Ah bah complètement. Alors justement, toujours le truc de cuisson,
ouais.
Ne jamais trop cuire la fève.
D'accord.
Donc c'est pareil, juste comme là tu la goûtes. Ouais. Regarde, juste tu la passes un petit coup au beurre, un goût de sel.
C'est tout.
C'est tout, c'est juste pour la réchauffer.
D'accord.
Ça c'est pas mal. Ou alors juste blanchi, mais alors là, 30 secondes, et on la sert comme ça tout de suite.
Donc là on est sur les... Sac, alors
ça bien sûr aussi.
Un petit peu d'artichaut quand même.
La poivrade. Alors, je te montre, Denis, comment on tourne les artichauts. On enlève ici un petit peu la queue.
Alors, quand vous dites la poivrade, que l'on comprenne.
Le petit artichaut,
ouais.
Qui n'est pas le gros et tout. Là, c'est vraiment aussi la saison. Donc, on tourne. Pour l'instant, ça croustille. T'entends la fraîcheur? T'entends la fraîcheur des choses, comme ça? Qu'est-ce que c'est de tourner les artichauts? C'est de garder le plus intéressant. Alors, il est toujours intéressant de manger les artichauts aussi entiers comme ça. Il y a toujours le plaisir de faire feuille à feuille. Et on prend presque plus de crème que d'artichauts après quand tu le trempes. Puis après de manger le fond. Mais autrement, quand on le prépare, quand on veut faire un petit peu gastronomie comme ça, regarde, tu gardes la substance.
Ça y est.
Moi, regarde ça, c'est magnifique. D'abord, c'est beau. Et ça, juste à l'étouffer, un tout petit peu de vin blanc, un tout petit peu de thym, de laurier, et tu cuis. Toujours, jamais trop cuit. On plante dans le cœur savoir si c'est tendre comme il faut, mais il faut que ce soit un petit peu résistant encore, il faut que ce soit un petit peu ferme. Donc là, on continue.
Alors...
Et on tombe là sur les poissons. Qu'est-ce qu'il y a en poisson en ce moment?
Maquereau.
Eh bien sûr, ouais, maquereau. Ça, c'est la pleine saison du maquereau. Le maquereau, c'est super.
C'est
parce qu'on peut le faire, c'est pas cher. Et en plus, on peut faire de toutes les façons. On peut le faire cru. Alors, c'est pour une belle qualité de macro. Regarde ça comment. Oh, regarde ça. Il y en a partout. C'est beau ça.
Toutes les nuances. Ah oui, nuances de vert et de bleu.
Là, ici, c'est la même chose. Ça. Il a été déjà fait enfiler parce que c'est pour les fainéants comme moi, c'est l'idéal. Surtout si le poissonnier. N'hésitez jamais à demander à votre poissonnier de lever les filets. Mais achetez toujours du poisson entier. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir la qualité du poisson. Un poisson frais, ça se voit tout de suite, il est vivant, oui. Il a des belles couleurs et tout ça. C'est pas des couleurs ternes et tout. Et donc là, on sait.
Alors, mes amis, les sardines, vous en avez ?
Eh ben, elles sont là, regardez, elles sont là. Attends, je les cherche parce que on a un peu tout sorti ça comme ça. Bah, tiens. Elles sont, regarde là, regardez. Bah, pareil. Oh là là. Là, je les ai fait préparer. Enfin, juste préparer comment ? Juste enlever donc l'intérieur et puis la tête. Alors, pour nettoyer les sardines, c'est un poisson très délicat, oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut prendre sous un petit filet d'eau, très petit filet d'eau, avec le doigt, on enlève les écailles comme ça. Regarde.
D'accord, avec le pouce.
Tu vois, comme ça, et là, on enlève, mais tout doucement, il y a trop d'eau là. Surtout pas au couteau, parce que là, ça abîme, c'est un poisson très fragile. D'accord. Et hop, après, on enlève la tête, on les vide, et là, c'est merveilleux.
Et alors, ensuite, qu'est-ce que, on ça mange comment là ?
Alors, pareil, comme le macro. Oui, carrément. Soit cru, moi j'adore. Surtout quand c'est là. Bon, celle-là, c'est des bretonnes, mais autrement, t'as la petite de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est toute petite. Alors là, ça, c'est magnifique. Juste fleur de sel, à peine de l'huile d'olive, ça va la massacrer, mais alors ça, c'est super. Ou autrement, bien évidemment, grillé. Il commence à y avoir les beaux jours. Et ben là,
on est pas mal.
Ah si, tiens ça. Je vais t'en parler.
On est pas mal, là.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est des noix de quoi, ça ?
De pécan. On est à la fin. Ça vient d'Italie, celle-là.
Oui.
Tu vois, on n'est pas vraiment local. Mais alors, c'est absolument étonnant. Est-ce que, Denis, tu as...
Un casserole de pécan.
Un casserole de pécan.
C'est qui veut ? Ben oui, j'ai un casserole de pécan.
Alors, on cherche. Et c'est pas évident de trouver des fraîches. Là, j'ai eu l'occasion, justement, de les trouver.
On le voit.
La finesse. Surtout, tu vois, par rapport à la différence avec la noix. Bon, attention. Non, mais goûte-moi ça, cette finesse.
Ça y est.
On est bien.
Cher Anthony,
hein, tu as le dessert. T'as rien à faire.
On se rejoint bientôt.
Ah ben, j'espère. Voilà. À bientôt. Denis.
Voilà. Et merci beaucoup.
Eh ben, de rien.
Eh bien, ça nous a fait du bien, ça, ces produits de saison avec Anthony Cointe. Je pense que je vais le convoquer très régulièrement parce que c'est important. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens. Ah ouais, produits de saison. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Mais non. Pas de fraises en ce moment. Voilà, un peu plus tard. Oui, bien sûr. Mais peut-être pas maintenant. Vous avez eu le temps de tout noter tranquillement ? Eh bien, c'est parfait. Eh ben, on dirait que c'est un générique de fin, ça. Mais absolument. Merci à Maxime Ingrand, Élise Christophe à la technique, Camille Blanès qui est notre collaboratrice d'enfer. Disons-le. Hélène Bisio aussi qui réalisait donc l'émission cette semaine. Et puis Muriel Pérez qui a pu choisir un disque. Hein. On a eu notre Stevie Wonder aujourd'hui. Ça n'a pas été très très grave de ce côté-là. Manger est un acte citoyen. Tenez pour faire suite. Ce sera Alain Ducasse qui viendra donc la semaine prochaine. On va parler avec lui. Pas tellement de recettes, hein, c'est pas ça le but du tout, mais il a sorti un livre qui est pas inintéressant du tout, et puis Gilles Van Der Potten aussi avec Reporter d'Espoir, donc ça nous fera pas mal de bien. L'as-tu lu mon petit loup ? Ah ouais, c'est avec Django, hein, on parlait de Django Reinhardt, ce sera donc à 19h54 ce dimanche. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis belle suite à tous.